Ce matin, Pascal va nous faire la suite dans Hébreux 12, 25 à 29. Vous pouvez ouvrir un beau Bible à ce chapitre-là. Dieu est un feu dévorant pour ceux qui refusent de l'écouter. On va savoir plus long quand mon frère Pascal va s'avancer. C'est pas une technique.
Est-ce qu'on peut peut-être fermer la porte, quelqu'un, s'il vous plaît? Il m'arrive de parler et que personne ne m'écoute. Certains diront, ben oui, mais tu parles tout le temps. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, les gens arrêtent de t'écouter. Ça ne m'arrive pas ici, heureusement. Généralement, quand je parle dans ce micro, les gens sont attentifs par la grâce de Dieu. Mais ça nous arrive tous de se rendre compte qu'on parle, puis personne n'écoute. On parle tout seul. Et c'est un peu insultant hein, quand ça nous arrive. Et pourtant, c'est généralement quand ça nous arrive parce que les gens sont soit distraits ou ils n'ont pas entendu, il y a du bruit ambiant qui fait en sorte qu'ils n'ont pas entendu qu'on est en train de parler ou de s'adresser à eux. C'est rarement parce que les gens refusent de nous écouter. Ça peut peut-être arriver, mais c'est rare que quand les gens ne nous écoutent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous écouter délibérément, qu'ils se bouchent les oreilles, qu'ils s'éloignent de nous lorsqu'on parle. Imaginez combien ça serait offensant si les gens agissaient ainsi envers nous. Imaginez si on donne des consignes à nos enfants, puis ils se bouchent les oreilles. On n'a pas besoin de l'imaginer, ça arrive parfois avec les enfants, mais imaginez qu'avec votre bien-aimé, vous lui parlez, vous avez des choses importantes à lui dire, et votre bien-aimé ne veut pas vous écouter. Il dit, écoute, là, je ne suis pas intéressé, là, je n'ai pas le temps, je me parlerai une autre fois. Ça serait offensant. Imaginez que vous appelez un ami pour prendre de ses nouvelles, pour donner de vos nouvelles, et il vous dit, écoute, je ne veux pas te parler. Et il raccroche. On serait blessé, on serait insulté si c'était de manière délibérée que les gens refusaient de nous écouter. Et en fait, ça nous paraît invraisemblable. On se dit, toute personne qui a minimalement un peu de savoir vivre n'agit pas ainsi. Ça nous arrive qu'on ne veut pas écouter quelqu'un, mais par respect, on fait semblant de l'écouter au moins. Mais c'est très rare que, de manière évidente, on refuse d'écouter quelqu'un. Eh bien, pourtant, c'est ainsi que la plupart des hommes agissent envers Dieu. Et le texte que nous allons étudier ce matin nous montre qu'il est désastreux pour l'homme d'agir ainsi envers Dieu, de refuser de l'écouter. Alors, nous allons lire le texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que nous avons ta parole entre les mains et nous voulons immédiatement la mettre en pratique. Seigneur, tu nous dis dans cette portion des Écritures de ne point refuser de t'entendre, de ne point fermer notre oreille. de ne point refuser de t'obéir, parce qu'il y a des conséquences à cela. Et Seigneur, nous te prions que par ta grâce, tu nous donnes des cœurs dociles et attentifs. Nous te prions que tu illumines les yeux de notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce texte et qu'il puisse nous transformer en agissant en nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus, la parole faite chair. Amen. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, on a vu plusieurs avertissements. Chapitre 2, Gisela nous l'a lu tantôt en ouverture. Le chapitre 6, un des avertissements les plus sévères, les plus sérieux de toute la Bible. Au chapitre 10 également. Alors, on a maintenant le dernier avertissement de l'Épître aux Hébreux. On dit enfin. Hein? Là, c'est les choses sévères. Il y aurait juste une prédication à entendre qui peut nous terroriser. Et après ça, on tombe au chapitre 13, c'est des exhortations un peu plus pratiques de la vie chrétienne. Mais donc, le dernier avertissement sérieux. Ce texte nous dit simplement qu'il va y avoir un jugement final. Et ce jugement nous est décrit comme Dieu qui va ébranler les cieux et la terre. Ça va être le jugement dernier. Et que face à ce jugement, il est vain, il est inutile de chercher à s'accrocher à ce monde, à chercher des refuges dans ce monde, parce que tout est ébranlable et tout sera ébranlé. Il n'y a point de secours dans tout cela. Et pour ceux donc qui refusent d'écouter la parole de Dieu, qui est inébranlable, qui nous apporte un royaume permanent et inébranlable, sous forme de promesses, mais bientôt sous une forme tangible, eh bien, tous ceux qui refusent d'écouter, Dieu sera pour eux un feu dévorant. On présente souvent Dieu dans l'Évangile sous un angle très positif, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu prompt à pardonner, lent à la colère, riche en miséricorde, et c'est véritablement ce que Dieu est. Et il ne faut pas négliger aussi que Dieu est un Dieu saint, juste, qui punit l'iniquité des hommes, qui les tient responsables de la réponse qu'ils expriment lorsque Dieu donne sa parole, et ceux qui refusent sa parole, Dieu est un feu dévorant, un feu de jugement, et ils seront consumés. Alors, j'ai divisé le texte en quatre points. Je vais les annoncer au fur et à mesure que nous allons avancer. Mon premier point, c'est Dieu parle. Je vais me moucher si je vous demande pardon. Là. C'est pas poli de faire ça comme ça devant vous, mais pas le choix. Alors, Dieu parle. Remarquez la conjugaison au présent dans le premier verset, le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui parle. La Bible nous présente un Dieu qui parle. Le Dieu des Écritures, c'est le Dieu de la parole. Et c'est une caractéristique centrale qui nous décrit Dieu. Dieu parle. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas silencieux. On a l'impression parfois que Dieu est silencieux parce qu'on ne l'entend pas avec nos oreilles, mais pourtant, Dieu est le Dieu qui parle. Et il s'est révélé dans la nature, la révélation générale. Mais ici, spécifiquement, il est question de la parole de Dieu, l'Écriture sainte, de la révélation spéciale, Dieu qui s'est révélé en Christ, de la révélation pour le salut de l'homme. Dieu parle. Et bien que sa parole soit immuable, Christ dit qu'il ne passera pas, qu'il ne tombera pas un seul iota, un seul trait de lettre de la parole divine, de la loi de Dieu. Sa parole n'est pas simplement un écrit statique. Elle est immuable, mais elle n'est pas seulement un vieil écrit qui est comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est une espèce de lettre morte. La parole de Dieu est une parole qui est vivante. Les disciples reconnaissent en Jésus-Christ qu'il a une parole qui est esprit et vie. Il dit, les disciples confessent que Christ a les paroles de la vie éternelle. Des paroles qui sont esprit et vie, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas que des mots, mais qui ont une puissance. En grec, on parle, il y a le mot « dunamis » qui est traduit en français par « dynamique », qui veut dire qu'il y a une force d'action. Dieu déclare une chose par sa parole et la puissance de sa parole fait arriver la chose. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles viennent à existence. Dieu commande à des morts de ressusciter et ils ressuscitent. Dieu a commandé à nous qui étions morts dans nos offenses, morts spirituellement, de naître de nouveau. Il nous a appelés au moyen de sa parole, il nous a régénérés. Sa parole, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre l'âme, elle agit dans les cœurs. C'est une parole puissante et vivante. Dieu parle. Il parle au présent, il parle maintenant. Sa parole n'est pas qu'un simple écho, elle est ce que Dieu nous dit maintenant, c'est ce que nous lisons dans les Écritures, et cette parole, elle est vivante par l'Esprit de Dieu. Et dans ce verset, le verset 25, il y a un contraste. Après avoir dit de ne pas refuser d'écouter celui qui parle, l'auteur ajoute, « Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Ceux-là, c'est une référence aux Israélites qu'on a vus il y a quelques semaines, les versets qui précèdent, là, versets 18 à 24, où Dieu s'est révélé. Et sa parole est efficace à l'époque également. Et ceux qui ont refusé d'écouter sa parole n'ont point échappé aux conséquences. Le contraste, certains commentateurs croient que le contraste est entre Moïse et Christ. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qu'ils refusèrent d'entendre celui qui publiait serait, selon eux, Moïse. Et celui qui parle du haut des cieux maintenant serait le Christ. Je ne crois pas que le contraste soit entre Moïse et Christ. Je crois plutôt que le contraste est entre deux types de paroles qui viennent toutes deux de la bouche de Dieu. Celui qui publiait les oracles sur la terre, c'était Dieu. Et celui qui parle du haut des cieux, c'est également Dieu, le même Dieu. Mais ce qu'il a dit jadis et ce qu'il dit maintenant, ce sont deux paroles différentes. Il y a une similitude, il y a quelque chose d'équivalent entre les deux. Dans le passage ici, c'est si on refuse d'écouter cette parole, il y a une conséquence. Mais ce que Dieu disait jadis concernait des choses terrestres. Il publiait des oracles sur la terre. On a vu la dernière fois que l'Ancienne Alliance, sa juridiction était terrestre. Elle n'apportait pas un salut de nature éternelle, elle apportait un salut de nature temporelle, terrestre, des délivrances dans un contexte géographique, dans un contexte historique très précis, et qui était aussi typologique, qui pointait vers des réalités futures, qui était l'ombre de la réalité, qui apportait pas le véritable salut, mais qui en était l'ombre. Et donc, Dieu publiait des oracles sur terre, et il y avait des conséquences à refuser d'écouter cette parole-là, même si elle n'avait pas une portée éternelle, et une des conséquences, c'était la mort, comme un châtiment, une peine civile, la peine capitale. Mais la parole, sous l'Ancienne Alliance, n'apportait pas de salut ni de damnation éternelle. C'est celle de la Nouvelle Alliance qui concerne les choses célestes. Et je tiens à préciser que la parole de la Nouvelle Alliance n'a pas seulement été donnée dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance commence à être révélée sous forme de promesses. Dès Genèse 3:15, Dieu annonce la Nouvelle Alliance, seulement elle n'est pas encore accomplie, elle est en promesse. Et elle va être révélée à plusieurs reprises, de sorte qu'il y avait déjà une parole, si on veut, d'une portée éternelle dans l'Ancien Testament, mais c'était la parole de la Nouvelle Alliance qui était révélée à l'époque. Alors, celui qui parlait, c'est Dieu qui disait des choses qui concernaient la terre. Maintenant, il nous parle du haut des cieux. La portée de l'ancienne alliance était inférieure à la portée de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était très localisée pour les Israélites. Ce n'étaient pas toutes les nations qui étaient concernées par cette parole-là. Tandis que la nouvelle alliance, elle a une portée universelle. Elle s'adresse, elle appelle tous les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu. Et ce que Dieu a dit par Jésus-Christ a des conséquences pour tous. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous sommes tous concernés par ce que Dieu a dit dans la nouvelle alliance. Sa portée, elle est universelle et elle est éternelle. Et je trouve qu'il est intéressant que l'auteur nous présente la parole de la nouvelle alliance comme venant de celui qui parle du haut des cieux. Un petit peu comme si Dieu avait son porte-voix, il est là-haut et il nous parle d'en haut. Alors que le Nouveau Testament nous montre la parole qui descend. Il n'est pas juste resté en haut, elle est descendue. C'est comme ça que commence l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair et est venue parmi nous, la parole incarnée. Christ, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Il n'est pas question ici d'un lieu géographique quand il nous dit qu'il nous parle du haut des cieux. Celui qui parle du haut des cieux ne renvoie pas à un lieu physique ou cosmologique, le contraste entre le ciel et la terre. Il est plutôt question d'un type de message. Les oracles de l'Ancienne Alliance étaient terrestres. L'oracle de la Nouvelle Alliance, un oracle, c'est une parole divine, une parole qui vient de Dieu. Donc, l'oracle ou les oracles de la Nouvelle Alliance sont célestes, même si la parole est venue sur terre, en chair et en os. Et ce contraste entre la parole d'avant et la parole de maintenant, ce que Dieu dit jadis sous l'Ancienne Alliance, d'une parole terrestre, et ce que Dieu dit maintenant sous la Nouvelle Alliance, une parole céleste, ce contraste fait écho au premier verset de l'Épître aux Hébreux. On les a étudiés le 6 avril 2008. J'ai regardé, c'était quand j'avais prêché ce texte-là, à l'époque où George Bush était encore président des États-Unis. Alors, ça fait très, très, très longtemps tout ça. C'est un vieux message. On va relire. Hébreux 1:1-2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, autrefois, Dieu a parlé dans telles circonstances, de différentes façons. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est comme ça que rouvre l'Épître aux Hébreux. Dieu a parlé jadis et Dieu nous parle maintenant en ces jours qui sont les derniers. Et ma compréhension est la suivante. Dans le Fils, en Jésus, nous avons la parole finale de Dieu, la parole définitive, la parole permanente. Autrement dit, tout ce que Dieu voulait révéler, tout ce que Dieu voulait porter à la connaissance des hommes concernant la vérité, concernant la vie éternelle, concernant le sens de l'existence, son origine et sa fin ultime, Dieu l'a dit. Il l'a dit en ces jours qui sont les derniers, quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé la parole dans le monde, son Fils, et au travers de lui et des ministres que le Fils a établis ici-bas pour établir la nouvelle alliance, pour la mettre dans sa pleine lumière par l'œuvre du Saint-Esprit au travers d'eux. Dieu nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Le mot final de la parole divine a été donné. Le canon est fermé, la révélation est complète. Et cet oracle, un oracle, c'est une parole de Dieu. Cet oracle, l'Évangile, est éternel. Il est à un présent continuel. On ne peut pas juste dire « Dieu a dit il y a 2000 ans au travers du Fils ». C'est « Dieu nous dit maintenant ». Dieu a dit, Dieu a continué de dire, puis Dieu dit encore aujourd'hui. Celui qui parle maintenant, l'Évangile, la parole que Dieu a prononcée, le mot final qu'il a mis par le Fils en accomplissant l'Évangile, c'est ce que Dieu dit maintenant. Dans cet Évangile, il y a une parole de salut et de jugement. Et je pense qu'il s'agit du sens de la vision de l'ange que Jean a dans Apocalypse, chapitre 14. Je vous cite les versets 6 et 7. Jean nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » L'ange qui est là et qui proclame un évangile éternel à tous les hommes, l'évangile éternel qui est quelque chose donc de continuellement présent, c'est la parole à l'indicatif présent de Dieu qui est perpétuel et qui concerne tous les hommes. Concerne pas, ça a une portée universelle. Tous sont interpellés, qu'ils soient, peu importe la race, peu importe l'origine, peu importe où ils sont actuellement, s'ils ont été rejoints par cet évangile, ils sont concernés par cette parole-là. Et il appelle donc les hommes à craindre Dieu, à se détourner, à se tourner vers lui, vers le Créateur, à lui donner gloire, à être réconcilié avec lui. L'heure de son jugement est venue. Et nous oublions parfois que l'Évangile contient un double message. Quand on dit le mot « Évangile », dans la culture évangélique, souvent on pense qu'à une seule chose, ça concerne la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ça concerne l'offre du pardon que Dieu annonce aux hommes. Il appelle les hommes à se repentir et ceux qui se repentent, qui se tournent vers Christ, voient leur péché être pardonné. Ils reçoivent la vie éternelle. Et c'est tout à fait vrai, c'est le message principal et central de l'Évangile. Et je sais qu'on n'a pas l'habitude d'envisager l'Évangile à la fois comme un jugement, en plus d'être une bonne nouvelle. Mais lorsque l'ange proclame cet Évangile éternel, ça nous dit aussi que l'heure de son jugement est venue. En Christ, il y a eu un jugement, et dans cet Évangile, il y a cette double parole de salut, de grâce, de pardon, mais à la fois de jugement. Le Nouveau Testament nous présente Jésus comme étant la pierre de touche. La personne vis-à-vis de laquelle la destinée de tous est déterminée. L'attitude, la position qu'une personne adopte vis-à-vis de la parole de Dieu, le Christ, la parole faite chair, détermine son éternité. Il est la pierre de touche. Et donc, il est, si on veut, le jugement divin. Et nous voyons cela dans ce que Christ lui-même nous dit. Jean, chapitre 3, verset 18, nous lisons, « Celui qui croit en lui, dans le Fils, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus a dit ailleurs, « Si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas de péché, vous ne seriez pas imputable, mais là, je suis là. » Le fait de sa présence, l'accomplissement de la nouvelle alliance qui concerne toute l'humanité, fait en sorte qu'il y a une parole de grâce, de salut en lui, mais également de jugement. Ceux qui ne croient point en lui, ceux qui le rejettent, ceux qui ne l'invoquent point comme sauveur, sont déjà jugés, ils sont condamnés. Jean-Baptiste nous dit quelques versets plus loin de ce même chapitre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'Évangile, donc, contient ce double message de rédemption et de jugement. Et c'est cet Évangile éternel que Dieu proclame, c'est le message central de la Nouvelle Alliance. Alors, c'était mon premier point. Dieu parle. Veillez à ne point refuser d'entendre celui qui parle. Et nous venons de voir celui qui parle, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que concerne cette parole? Il parle au présent, et voilà ce qu'il nous dit, un évangile éternel de salut et de jugement. Deuxième point, l'homme répond. L'homme répond toujours à Dieu. Tous les hommes répondent à Dieu. Soit par la foi, c'est-à-dire en croyant la parole de Dieu, en l'acceptant, en se soumettant à cette parole, ou soit en refusant de l'écouter, en rejetant sa parole, en ignorant sa parole. Mais la neutralité est impossible. Il n'y a pas une troisième catégorie d'hommes. Il n'y a que deux catégories d'hommes. Tous répondent à Dieu. Il y a ceux qui reçoivent sa parole dans la foi et il y a tous les autres qui rejettent sa parole. Et ici, le texte nous parle spécifiquement de ceux qui rejettent. Il nous met en garde de ne pas être parmi ceux-là. Un peu plus bas, il va nous parler de ceux qui ont la foi, mais là, on va se concentrer sur ceux qui rejettent. La réponse de l'homme, mais la réponse négative de l'homme à ce que Dieu dit. Que signifie refuser d'entendre celui qui parle? Ça peut signifier deux choses. Premièrement, ça peut signifier de rejeter sa parole de manière délibérée. Refuser d'entendre Dieu, ça veut carrément dire rejeter la parole de Dieu. Refuser sa parole. Mais de manière délibérée. Et ceux qui font ça, ce sont les hérétiques, les apostats et les impénitents. Les hérétiques. On utilise souvent ce mot de manière un petit peu légère. On évite des fois sur la gâchette pour tirer sur les hérétiques. Dès que quelqu'un ne pense pas comme nous, on dit que c'est un hérétique. Il y a place dans certaines portions de la doctrine chrétienne pour divergence d'opinion. Il y a des questions qui ne sont pas centrales. Quand on parle, par exemple, de l'eschatologie, les doctrines de la fin des temps, si ceux qui ont une mauvaise compréhension de la doctrine de la fin des temps sont des hérétiques, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hérétiques parce qu'il n'y a pas de consensus sur ces questions-là. Alors, presque toutes les positions sont minoritaires. Les hérétiques, en fait, une hérésie, c'est altérer des points essentiels de la doctrine chrétienne. Il y a des points qui sont pas, il y a aucun point qui est pas important, mais des points qui sont pas essentiels, c'est-à-dire qui sont pas nécessaires au salut. Il y a des points de la doctrine chrétienne que vous pouvez avoir une opinion divergente et ça ne veut pas dire que vous allez aller en enfer pour autant. Mais il y a des points de la doctrine chrétienne que si vous rejetez, que si vous changez, si vous altérez la nature, vous n'êtes pas un chrétien. Entre autres, la doctrine du salut par la grâce. L'apôtre Paul commence l'Épître aux Galates en disant ceci. Galates, chapitre 1, verset 8. Il dit, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il n'y a pas de place pour un autre évangile. Et ailleurs, il précise dans l'Épître, un peu plus loin, il dit, « Vous êtes séparés de Christ, c'est-à-dire vous êtes anathème, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » De prêcher un évangile qui enseigne autre chose que la justification gratuite de Dieu, qui enseigne une justification par les œuvres, par l'obéissance à la loi ou par autre chose, c'est un faux évangile et c'est une hérésie. Il y a un autre point de doctrine qui est une hérésie, c'est si on a une mauvaise christologie, une mauvaise doctrine de Christ. L'apôtre Jean nous dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Il existe de faux Christ. Jésus lui-même a dit qu'il viendrait de faux Christ. Et certains faux Christ, c'est une fausse doctrine de Christ. Une doctrine, par exemple, qui nie la divinité de Christ ou qui nie son humanité. Il y a eu toutes sortes de mauvaises interprétations de qui était Jésus-Christ et il y en a encore aujourd'hui. Et si quelqu'un va plus loin, ne reste pas dans la doctrine biblique du Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Jean dit dans sa première épître, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Alors, les hérétiques, ce sont des personnes qui refusent d'entendre la parole de Dieu, qui rejettent sa parole de manière délibérée. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait également les apostats. Un apostat, c'est quelqu'un comme Judas. Judas a marché un certain temps parmi les disciples. Extérieurement, il n'y avait aucune façon de savoir qu'il n'était pas un vrai disciple. Il en avait toute l'apparence. Il était avec Christ, il était avec ceux qui étaient avec Christ, il faisait les œuvres que les autres faisaient. Il a porté du fruit pendant un certain temps. Extérieurement, il avait toute l'apparence d'être un enfant de Dieu. Mais son cœur était rebelle. Il n'a jamais véritablement été converti et lui-même n'en était probablement pas conscient pendant son existence. Jusqu'au moment où il s'est révolté, jusqu'au moment où il a levé le talon contre le Seigneur. Et il ne s'agit pas d'une chute temporaire. Un apostat, ce n'est pas quelqu'un, un chrétien, qui à un moment donné tombe dans un péché, s'éloigne, même un péché grave, puis on le voit s'éloigner pour un bon bout de temps. L'apostat, c'est un abandon permanent. Il nous est décrit les apostats dans différents endroits dans l'Épître aux Hébreux parce qu'il y avait plusieurs qui étaient en danger d'apostasier parmi la congrégation à laquelle cette lettre est écrite. On le voit au chapitre 6. Il nous est dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Ils prennent part, ils se mettent d'accord et du côté de ceux qui ont mis à mort le prince de la vie qui ont dit que son sang retombe sur nous. C'est ce que ça veut dire. Ils crucifient pour leur part, pour eux-mêmes, le Fils de Dieu. Et j'ai dit également que ceux qui refusent d'entendre la parole de Dieu incluaient les impénitents. Alors, on a les hérétiques qui altèrent les points essentiels de la doctrine chrétienne. On a les apostats qui finissent par se rebeller contre Dieu, par abandonner. Et les impénitents. Les impénitents, ce sont ceux qui n'ont jamais fait véritablement profession de foi. Enfin, ils n'ont jamais fait profession de foi, mais ils ont été exposés suffisamment à la parole de Dieu pour savoir de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des gens qui sont dans une ignorance complète. Ce sont des gens qui ont clairement entendu la parole divine, qui ont entendu parler de Christ, qui ont entendu l'Évangile, mais ils refusent de capituler. Ils refusent de croire. Ils refusent de se repentir de leurs péchés. Ils refusent que Christ devienne leur Seigneur. Je ne fléchirai pas le genou. Je ne peux pas lui laisser les commandes de ma vie. Je ne peux pas abandonner tel péché. Et lorsqu'ils le refusent comme Seigneur, ils le refusent du même coup comme Sauveur. Alors, tous ceux-là refusent d'entendre celui qui parle. Ils rejettent la parole de Dieu. Et l'auteur nous dit, prenez garde de ne pas être parmi eux. Mais il y a une autre façon de rejeter sa parole. Qu'en est-il de ceux qui l'ignorent simplement? Ceux qui ne sont pas vraiment au courant. Ceux qui n'ont jamais peut-être même entendu parler du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, son Fils. Ceux qui ont une notion vague de la foi chrétienne, des gens probablement dans notre entourage, des catholiques non pratiquants, qui croient, mais qui ne croient pas vraiment au sens biblique du terme croire, et qui ne sont pas hostiles face à Dieu, sont juste plutôt ignorants. Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de neutralité possible. On ne peut pas juste être neutre face à Christ, être indifférent, et ça nous mettrait dans une catégorie à part, peut-être épargné. Si nous ne sommes pas avec lui, nous sommes contre lui. Par nature, l'homme est incliné, son cœur est incliné contre Dieu. Alors, si notre cœur n'est pas converti pour être avec lui, il est forcément contre lui-même si nous n'avons pas de sentiments hostiles face à lui. Parce que l'Évangile, c'est un message kérigmatique. Il y a un fatigant à la radio qui dit « CFOI FM, une antenne kérigmatique, théologique, unique. » Vous avez déjà entendu, c'est moi. Qui a cherché dans le dictionnaire ce que ça veut dire kérigmatique? Même si vous l'aviez cherché, vous ne l'auriez pas trouvé. C'est pas dans le dictionnaire. Ça vient d'un mot grec, kérigma, qui veut dire une proclamation. Le proclamateur, c'est le kéroux, et ça donne en français un héros, hein, celui qui proclame. C'est là le sens de notre blog, un héros dans le net, et l'idée donc de la station de radio où nous proclamons le message, nous sommes des proclamateurs. L'Évangile est un message kérigmatique, un message qu'on proclame. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on annonce l'arrivée d'un tsunami dans 2 heures d'ici. Il y a eu un tremblement de terre au milieu de l'océan et il y a un tsunami qui s'en vient. Cette annonce est une proclamation. C'est un kérigma. On proclame un fait. Il ne s'agit pas d'une information qui est soumise pour être évaluée, pour être jugée par les hommes. C'est une alarme. On proclame, voici un fait. Si vous refusez cette parole, si vous ne voulez pas l'entendre, vous irez probablement pas vous mettre à l'abri si vous pensez que c'est une supercherie, que c'est pas vrai. Et vous périrez lorsque le tsunami va arriver. Si vous ignorez simplement cette parole, vous ne l'entendez pas. Si vous êtes sourd et vous n'arrivez pas à capter, ça ne change rien. Vous allez périr aussi. Votre réponse ne change rien à la réalité. L'Évangile est un message kérigmatique. C'est une proclamation. Et la proclamation est la suivante. On dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais avant d'être une bonne nouvelle, il faut qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est la suivante. Quand on veut prêcher à quelqu'un, il faut lui dire ça. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. Et la mauvaise que nous proclamons, c'est que tous les hommes sont coupables. Ils sont tous sous la colère de Dieu. Ils sont tous condamnables. Et nul ne pourra échapper. Le jugement s'en vient. Le feu de Dieu est prêt à dévorer les hommes à cause de leurs péchés. Mais la bonne nouvelle que nous proclamons avec autant de certitude, c'est que Dieu justifie gratuitement les pécheurs qui se repentent et qui invoquent le nom de Christ, qui lui demandent de devenir leur Seigneur, qui cherchent auprès de lui à être pardonnés de leurs péchés. Ce message est kérigmatique. Nous proclamons, c'est un fait, c'est un petit peu comme s'il y avait un match de boxe, il y a eu un vainqueur. On proclame le vainqueur. Que quelqu'un s'oppose, reconnaisse ou non, ça ne change rien, il y a une proclamation, voici le fait. Nous proclamons la vérité. Christ est ressuscité des morts. Et il y a des conséquences. Cet évangile éternel concerne tous les hommes. Et à cause de cela, tous les hommes sont appelés à la repentance. C'est ce que font les apôtres dans les Actes. Lorsqu'ils prêchent l'évangile, qu'est-ce qu'ils font après? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Le message que nous proclamons n'est pas soumis pour être approuvé des hommes, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'ils prennent ce qui est bon, qu'est-ce qui fait leur affaire là-dedans. Ce kérigma est une déclaration divine. Ce n'est pas un message qui vient des hommes. Il a été porté par des hommes qui en sont les ambassadeurs, mais celui qui parle, c'est Dieu. Gardez-vous de refuser d'écouter celui qui parle. Que quelqu'un ignore qu'il est coupable, que quelqu'un ignore qu'il est sous la condamnation, ne change rien à sa culpabilité. C'est exactement comme celui qui ne sait pas qu'il y a un tsunami qui s'en vient, il va se faire engloutir quand même. Même ceux qui n'ont pas le témoignage des Écritures sont inexcusables, parce qu'ils ont un autre témoignage, celui de la nature. La nature qui rend témoignage aux hommes, la conscience de chaque homme qui lui rend témoignage de qui est Dieu et qui le rend surtout inexcusable, anapologestai, sans défense pour plaider devant le Dieu qu'il n'a pas glorifié comme Dieu. Alors ceux qui continuent leur vie en ignorant la parole de Dieu, qui refusent d'entendre, qui ne s'inquiètent pas de tout ça, qui disent « je m'arrangerai bien quand je le rencontrerai », qu'ils sachent ceci, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous lisons dans les Actes, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » C'est Dieu qui l'annonce. Nous sommes ses porte-paroles et nous avons l'urgence d'annoncer et de délivrer ce message à tout homme parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte qu'ils ne savent pas ces Athéniens, ces païens qui n'ont jamais entendu parler de Christ et de la résurrection. Dieu ne tient pas compte de leur ignorance et ils annoncent à tous les hommes maintenant qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice et c'est mon troisième point. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Au verset 26, on lit exactement la même chose, mais dans d'autres mots. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Lors du Sinaï, la voix de Dieu a ébranlé la terre. Vous vous souvenez ce qui nous était décrit dans les versets précédents? La fumée qui était là, la montagne qui était secouée, les éclairs, le feu, le peuple était terrorisé, Moïse était tout tremblant. Et Dieu a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Où est-ce que Dieu a fait cette promesse? Elle provient du prophète Agé, parmi les petits prophètes de l'Ancien Testament, et c'était à l'époque après le retour de l'exil dans le contexte de la reconstruction du temple. Agé chapitre 2, verset 6. L'auteur de l'Épître aux Hébreux voit dans cette promesse l'annonce du jugement dernier. La façon qu'il comprend cette portion de l'Écriture de l'Ancien Testament, c'est que Dieu dit qu'il va ébranler à nouveau la terre, mais cette fois, ça ne sera pas juste dans une proportion locale, seulement Israël au désert, mais ce que vous avez vu, ce qui vous a terrifié, la grandeur, la puissance de Dieu, va se produire dans des proportions universelles. Dieu jugera le monde. Et ici, ça nous est décrit dans les termes où le ciel et la terre seront ébranlés. L'auteur n'insiste pas tellement sur les éléments spectaculaires de ce jour futur. Sûrement que ça va être assez spectaculaire. Ailleurs, l'Écriture insiste sur les éléments effroyables, terrorisants de ce jour. Mais l'auteur ici, ce qui attire son attention, c'est une petite phrase. Une fois encore. L'auteur fait de l'exégèse. Il lit le texte de la Septante du prophète Agé et il voit cette petite phrase dans le texte de l'Ancien Testament. Une fois encore. Et il dit ces mots, une fois encore, ça signifie que le monde actuel est altérable, qu'il a été ébranlé et qu'il peut encore être ébranlé et qu'il sera ébranlé. Ce n'est pas un monde qui est immuable. Mais dans ce monde ébranlable est entré quelque chose d'inébranlable. Quelque chose de sûr, de certain, de solide, la parole de Dieu. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et le contexte de cette affirmation, c'est un contexte du jugement dernier, quand les disciples lui demande, « Dis-nous, quand viendra la fin du monde? » Et lorsque Christ parle des choses de la fin, pas que de la fin, on l'a vu déjà, si vous vous souvenez, il parle aussi d'un jugement qui était plus imminent en 70, mais qui annonçait le jugement dernier. Et il dit, « Le ciel et la terre passeront avec fracas. » Il y aura un bouleversement de proportions universelles, cosmologiques, mais mes paroles ne passeront point. Lorsque vient une grosse tempête, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un abri sûr et solide. Il y a trois semaines, il y a eu la tempête, c'était quoi son nom? Sandy, à New York. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On fuit la tempête. On s'en va là où elle ne sera pas. Mais qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait une tempête qui arriverait sur la face du monde entier? Où est-ce qu'on pourrait fuir? Nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas éviter la tempête? On cherche un abri, un refuge pour se cacher, pour se protéger. Mais qu'est-ce qu'on fait si tout est ébranlable? Si le monde sur lequel on se tient n'est même pas solide? Si le ciel lui-même s'écroule, qu'est-ce qu'il nous reste de solide pour se tenir? Eh bien, il y a une seule chose, la parole divine. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Souvenons-nous de comment Christ termine le sermon sur la montagne, en Matthieu 7. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Frères et sœurs, sur quoi votre vie repose-t-elle? Quel est le fondement sur lequel votre existence repose? L'apôtre Pierre nous dit ceci, « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile éternel. Dieu parle, Dieu nous donne cet Évangile. Et l'apôtre Jean ajoute, « Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui ne se laisse pas entraîner par la convoitise de ce monde, qui passe, demeure éternellement. Un peu plus tôt, nous avons vu la réponse de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Terminons maintenant avec la réponse de ceux qui accueillent sa parole. Les deux derniers versets, et c'est mon quatrième et dernier point, reconnaissance et tremblement. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'aurais pu faire un sermon entier juste sur ces deux versets, mais je vais seulement dire deux choses. Dans la réponse des croyants, dans ceux qui ne refusent pas d'entendre celui qui parle, mais qui croient, qui reçoivent cette parole dans la foi, on retrouve deux attitudes, la reconnaissance et le tremblement. Et certains vont dire que c'est incompatible. On va dire, certains, ils ont un discours où il n'y a pas de place pour le tremblement dans la vie chrétienne, que ce n'est que positif, que assurance, joie, et il n'y a aucun tremblement devant Dieu. Lorsque nous prenons conscience, comme Moïse, que l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. C'est une citation du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque nous prenons conscience de la grandeur de Dieu, lorsque nous sommes frappés par sa gloire, par sa sainteté, tous les hommes qui ont eu une vision, une théophanie, sont tombés sur leur face comme morts. Ils sont sentis malades devant la sainteté de Dieu, devant l'éclat de sa gloire, indignes, menacés, terrorisés. Et lorsque nous prenons conscience, nous n'avons pas visuellement cette vision-là, mais elle nous est donnée par la parole de Dieu. Lorsque nous la recevons dans la foi, et que nous savons que ce Dieu est tellement grand, on ne peut pas le contrôler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Et qu'on peut juste faire une seule chose, c'est de se prosterner devant lui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de trembler devant un aussi grand Dieu? Et s'il nous est jamais arrivé de trembler devant Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir un respect profond, d'être saisi par sa grandeur, par la terreur qu'il inspire, il vous manque quelque chose dans votre conception de Dieu. Dieu, c'est pas le petit Dieu qu'on met dans notre poche, qu'on sent quand on en a besoin, comme le génie qui sort d'une lampe pour faire tous nos désirs. Dieu est grand. Dieu est majestueux. Il est puissant. Il est redoutable. Mais en même temps que nous comprenons cette vision de Dieu, sa gloire, et comment il est terrorisant pour le pécheur avec sa sainteté qui vient comme un feu dévorant, nous comprenons que Dieu n'est plus une menace pour nous, qu'il ne vient pas pour nous anéantir, mais qu'il nous accorde les richesses inébranlables, qu'il nous accorde la vie éternelle, la pleine assurance de notre salut, de son entier pardon pour toujours. Il efface nos dettes, lui seul peut le faire, on ne peut rien faire de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ce moment-là que de déborder de gratitude devant lui? Et vous savez quoi? Lorsque Dieu retrouve ces deux choses dans le cœur de ses enfants, ce respect profond, cette crainte de Dieu, qui n'ose pas blasphémer son nom, qui n'ose pas offenser la gloire de Dieu, qui désire lui obéir. Et la gratitude, l'assurance devant ce Dieu, devant son amour, devant sa grâce, devant ses promesses, cela lui est agréable. C'est ce que l'auteur nous dit. Nous lui rendons un culte qui lui est agréable. Un culte dans lequel on montre notre reconnaissance avec piété et avec crainte. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle puisse produire vraiment dans nos cœurs, renouveler cette disposition, notre émerveillement devant sa grandeur, devant sa gloire, et aussi notre assurance devant sa grâce pour nous. Amen.
Merci, Pascal, pour ces vérités, qu'on puisse en prendre conscience et aimer Dieu, mais avec respect aussi. J'inviterai Mme Payette ainsi que Louise. On va se lever. J'aime l'Éternel